guerre bactériologique. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Est-ce que vous pensez qu'un artiste, chanteur, chanteuse, entre autres, doit profiter de sa notoriété pour faire passer telle ou telle cause?
Je pense que c'est bien. Je pense que oui, les artistes doivent faire ça. Et je pense que les écrivains doivent le faire.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, nous sommes ici trop modestes et trop raisonnables pour prétendre chasser sur les terres de nos amis de France Musique. Mais si cette émission est consacrée à Barbara, chanteuse hors de pair, c'est parce qu'en la restituant dans son temps, on est conduit vers un bon nombre des émotions collectives, des pulsations politiques et des mouvements sociaux dont elle a reflété au cœur de son art la vibration. Elle l'a fait dans l'épaisseur de son époque, dont elle nous parle d'une voix sans pareille. Mais l'entendre aujourd'hui, c'est aussi être conduit à rechercher les motifs pour lesquels son œuvre nous parle encore si fort. C'est sans le moindre didactisme, assurément, mais d'autant plus profondément, peut-être. Il ne faut pas être grand clerc, en effet, pour débusquer dans l'aventure musicale spécifique de Barbara des échos contemporains, après d'un demi-siècle de distance. L'itinéraire de cette petite enfant juive, ballottée par la guerre, abusée par son père, et émergeant, non sans diverses malaventures, au premier rang de la popularité, nous dit beaucoup, au-delà des simples bonheurs qu'elle a apportés à son public au fil de plusieurs générations. En la suivant, au long de sa carrière, nous allons rencontrer ses divers combats civiques. Elle va nous parler des femmes opprimées par la société de son époque, des exclus et des malades, avec au premier chef les ravages du sida, de son soutien au socialisme vainqueur de 1980, et surtout peut-être, de la réconciliation entre la France et l'Allemagne. C'est là que surgit Göttingen, l'une de ses créations les plus célèbres, entre hasard, instinct et détermination. Sébastien Bost, mon invité, est chargé de cours en art du spectacle à l'université de Tours. Il donne à bien connaître, dans ses travaux, l'œuvre de Barbara, originale et intense, tourmentée et généreuse. Bienvenue dans cet univers. Et d'abord, Perlin Pimpin, 1973.
Qui, combien, quand et pourquoi, contre qui, comment, contre quoi, c'en est assez de vos violences. D'où venez-vous, où allez-vous, qui êtes-vous, qui priez-vous, je vous prie de faire silence. Pour qui, comment, quand et pourquoi, s'il faut absolument qu'on soit contre quelqu'un ou quelque chose. Je suis pour le soleil couchant en haut des collines désertes, je suis pour des forêts profondes. Car un enfant qui pleure, qu'il soit de n'importe où, est un enfant qui pleure. Car un enfant qui meurt au bout de vos fusils est un enfant qui meurt. Que c'est abominable d'avoir à choisir entre deux innocences. Que c'est abominable d'avoir pour ennemi les rires de l'enfant. Comment, quand et combien, contre qui, comment et combien, en perdre le goût de vivre. Le goût de l'eau, le goût du pain, et celui du perlin pimpin, en le square des Batignolles. Mais pour rien, mais pour presque rien, pour être avec vous et c'est bien, et pour une rose entr'ouverte. Mais pour une respiration, mais pour un souffle d'abandon, mais pour un un jardin qui frissonne. Rien à voir, mais passionnément, ne rien se dire éperdument, ne rien savoir avec ivresse. Riche de la dépossession, n'avoir que sa vérité, posséder toutes les richesses. Ne pas parler de poésie, ne pas parler de poésie, en écrasant les fleurs sauvages. Voir jouer la transparence au fond d'une cour au mur gris, où l'aube n'a jamais sa chance.
Est-ce que c'est le rôle d'un chanteur de prendre une cause humanitaire comme ça et de la défendre ?
Écoute, je ne sais pas si c'est le rôle d'un chanteur. Je sais que si on vit dans une vie où se passent des choses, il est difficile d'écrire et de vivre cette vie sans en être entièrement touché, puisque tu vis avec ça et tu chantes avec ça, tu ne peux pas rentrer en scène sans tout ce qu'il y a autour de toi. Je ne sais pas si c'est le rôle ou si c'est un état d'être qui fait qu'on ne peut pas ne pas en parler. Et que comme nous avons ce privilège d'être au devant et quelques moments sous la lumière et d'être écouté, même si c'est un faux pouvoir, il y a des moments où on nous écoute, et bien il me paraissait évident que de cette lumière-là, il fallait s'en servir aussi pour dire ça. Et que chacun a un combat. Moi, il y a d'autres choses dont je ne sais pas parler, mais il m'a semblé que celui-là pouvait être le mien.
Sébastien Bosse, bonjour.
Bonjour.
Après Perlin Papin, nous avons entendu une archive empruntée à l'émission de François Delétraz, Jeu de Louis, en date du 19 novembre 1993. J'ai ouvert avec cette chanson notre conversation et avec ce propos qui, je crois, nous conduit tout droit à la problématique qui sera la nôtre. Barbara citoyenne, Barbara dans la cité. J'ajoute d'emblée que, malheureusement, nous ne pourrons pas donner des chansons entières. Ce que nous faisons d'habitude à cette émission, et ce sera un peu une souffrance, mais si nous les proposions complètes, elles occuperaient toute l'émission. Vous trouvez là celle que vous avez tant aimée, celle que vous aimez tant, celle que vous célébrez si bien dans vos travaux, vous la trouvez telle qu'en elle-même ?
Oui, car on voit toute sa modestie et en même temps toute sa conscience d'artiste qui est très vigilante à l'égard des malheurs du monde et des détresses humaines. Barbara dit qu'elle ne sait pas si c'est le rôle d'un artiste de s'engager pour des causes, mais c'est son devoir, puisqu'elle dit on ne peut pas, quand on a une parole publique et quand on a un public, une audience qui nous suit, on ne peut pas ne pas dénoncer des choses ou favoriser, proposer des solutions. Donc c'est peut-être pas le rôle de l'artiste de s'engager, mais c'est son devoir.
Elle refuse l'expression d'artiste engagé.
Oui, parce que pour elle, l'artiste engagé, c'est une artiste qui va militer concrètement avec des solutions qui passent par des manifestations, des signatures de pétitions, etc. Donc pour elle, c'est cette façon très traditionnelle, si j'ose dire, qui ne lui convient pas forcément. Elle veut lier son engagement avec sa façon de faire de la musique et avec sa relation qui la lie au public, qui est une relation placée sous le signe de la fraternité et de l'amour.
Mais non sans courage, on peut le dire, je crois. Dès à présent, c'est Charles Aznavour, qui fut son ami, qui disait son secret, c'est qu'elle se permettait tout. Elle osait tout, et en osant tout, elle était sincère.
Et c'est pour ça qu'on l'écoute, et c'est pour ça qu'on la suit, c'est parce qu'on sait que derrière les paroles de ses chansons ou ses prises de parole publiques, il y a une très très grande sincérité. À aucun moment, Barbara n'essaie de jouer un rôle, de jouer un personnage. Elle se livre dans ses chansons comme dans ses discours, entre guillemets, avec une authenticité touchante et désarmante.
Il faut que nous la situions dans son siècle, naturellement, et que nous rappelions ce que sont les origines de cette petite fille ballottée par la guerre.
Alors Barbara, elle est née à Paris en juin 1930, mais c'est vrai que son père était un juif alsacien.
Sous le nom de Monique Serf.
Oui, on prononce pas normalement le F, mais bon, on dit Monique Serf, effectivement. Donc son père était juif alsacien, et du côté maternel, ses grands-parents, enfin ses ancêtres maternels, étaient d'origine russe. Sa mère était née à Tiraspol en Moldavie, sa grand-mère à Zlatopol en Ukraine, il y avait de la famille aussi à Odessa, et ce sont des juifs ashkénazes qui, dès 1905, ont été persécutés par les pogroms du pouvoir russe en place. Et encore plus en 1919-1920, lorsqu'il y a eu cette tentative de république démocratique d'Ukraine qui n'a duré que 2-3 ans. Et là où la répression à l'égard des Juifs notamment a été très très sévère. Et ce sont donc toute la famille de sa mère qui a été jetée sur les routes et qui a traversé toute l'Europe centrale pour venir se réfugier en France.
Sa grand-mère s'appelait Varvara, et c'est des origines, nous dit-on, du nom qu'elle a choisi avec un arrière-plan des histoires de steppe, de loup.
Absolument, parce que cette grand-mère adorée, cette grand-mère maternelle, une fois à Paris, racontait à sa petite fille, la petite Monique, qui ne s'appelait pas encore Varvara, racontait justement ce passé. Et elle essayait presque de l'idéaliser aux yeux de sa petite fille, parce que elle a très tôt, par ses histoires, ses contes, ses légendes, elle a instillé chez Varvara cette conscience, cette vigilance à l'égard des détresses, cette nécessité de résister à toutes les formes d'oppression, de discrimination, mais elle a aussi présenté à Varvara la solution, parce que les ancêtres maternels de Varvara étaient aussi des baladins, c'était les balaganes russes, cracheurs de feu, dompteurs, et qui montaient sur des tréteaux pour faire des petits spectacles. Et lorsqu'ils ont fui la Russie, ils vivaient aussi de leur art de la rue, c'était des artistes de rue. Et donc ce qui est formidable, c'est qu'on résiste à l'oppression en chantant et en continuant à perpétuer le sens de la fête.
Et en étant extrêmement mobile, le mot d'errance, le mot de mouvement me paraît intrinsèquement lié au destin de Varvara.
Le mot de nomade qu'elle emploie beaucoup, parce qu'elle va ensuite reproduire ce mode de vie, une vie de tournée. Chez Varvara, la troupe, la route, la roulotte, on n'est pas en studio chez Varvara. On va sur les routes et on sillonne les routes, pour semer des paillettes de féerie, y compris sur les douleurs et sur les détresses humaines.
Oui, elle n'aime pas les studios, elle le dit. Il lui faut son public, son cher public.
Absolument, il lui faut la route, cette énergie, cette communauté aussi, la troupe, très important chez elle.
Alors cette fuite pendant la guerre, quelques précisions s'il vous plaît.
Oui, alors pendant la guerre, effectivement, sa famille est amenée à fuir dès 1939. Et alors il est bien évident que elle, comme petite fille, elle revit, si vous voulez, à l'âge de 10 ans, ce que donc ses ancêtres ont vécu 20 ans, pratiquement 20 ans plus tôt, ou 30 ans plus tôt en Russie. Et alors, évidemment, c'est l'exode. Donc, la famille fuit Paris, mais elle vit d'abord l'éclatement de sa famille, puisqu'elle part avec... Elle est confiée à une tante. Ils partent d'abord vers Poitiers, puis ils sont séparés. Il y a Roanne aussi. Il y a Tarbes. Ça se finit, bien sûr, dans le Vercors, à Saint-Marcellin, en Isère. Le passage, quand même, dans l'Indre, là, est très important, parce que Varvara, elle a quand même échappé... alors qu'elle était petite fille, au bombardement d'un train dans la plaine de Châtillon, où il y a eu beaucoup de morts et où ils sont restés pendant 2-3 jours, les rescapés comme ça, livrés à eux-mêmes dans les champs ou dans la campagne berrichonne. Et ensuite, ce sont des gens qui sont venus les secourir, des gens du coin. Et elle a trouvé refuge dans une famille à Préau, dans le petit village de Préau, dans l'Indre. Et à Préau, ensuite, ils l'ont cachée lorsqu'il y a eu des rafles, etc. Elle était chez une famille de justes qui l'ont cachée pour qu'elle évite d'être embarquée par les rafles de Vichy. Et alors ensuite, effectivement, toute la famille s'est retrouvée dans le Vercors, dans le petit village de Saint-Marcellin en Isère, où là, ils sont restés plus longtemps, ils sont restés 2 ans.
Dans son beau livre consacré à Varvara, Marie Schex, qui a été l'assistante de Varvara, évoque l'arrivée à Marcellin, l'émotion, les larmes, tout ce qu'on retrouve dans cette chanson, dont voici un extrait. Mon enfance, 1968.
J'ai eu tort, je suis revenue dans cette ville au loin perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau glisser le soir, bleu et gris, ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après, le coteau, l'arbre se dressant. Comme au passé, j'ai marché les tempes brûlantes, croyant étouffées sous mes pas, les voix du passé qui nous hantent et reviennent sonner le glas. Et je me suis couchée sous l'arbre, c'était les mêmes odeurs. Et j'ai laissé couler mes pleurs, mes pleurs. J'ai mis mon dos nu à l'écorce, l'arbre m'a redonné des forces, tout comme au temps de mon enfance. Et longtemps j'ai fermé les yeux, je crois que j'ai prié un peu, je retrouvais mon innocence. Avant que le soir ne se pose, j'ai voulu voir la maison fleurie sous les roses. J'ai voulu voir le jardin où nos cris d'enfants jaillissaient comme source claire. Jean-Claude et Régine et puis Jean, tout redevenait comme hier. Le parfum lourd des songes rouges, les dahlias fauves dans l'allée, le puits, tout, j'ai tout retrouvé. Hélas, la guerre nous avait jetés là, d'autres furent moins heureux, je crois, autant jolis de leur enfance. La guerre nous avait jetés là, nous vivions comme hors la loi, et j'aimais cela quand j'y pense. Oh mes printemps, mes soleils, oh mes folles années perdues, oh mes 15 ans, oh mes merveilles, que j'ai mal d'être revenu. Oh les noix fraîches de septembre et l'odeur des murs écrasés, c'est fou tout, j'ai tout retrouvé. Hélas.
J'étais une petite fille qui voyageait, du fait qu'on fuyait, qu'on se cachait. Mais moi, à cette époque-là, à la limite, ça m'amusait d'être une enfant de la guerre à partir du moment où j'ai été épargnée, alors que beaucoup ne l'ont pas été. Fuir d'hôtel en hôtel, c'est quand même une aventure, même avec la peur. Se cacher quelque part, ça a été aussi très excitant dans la tête d'un enfant qui voit pas forcément le danger, qui comprend, mais qui, bon, beaucoup d'autres n'ont pas eu ce privilège-là de fuir et de... Ils n'ont même pas eu le temps de fuir.
Quand ceux qui vont s'en vont aller, quand le dernier jour s'est levé...
C'était un extrait de l'émission Synergie de Jean Lucas, le 27 décembre 1996. On ne peut qu'être sensible à une sorte de contradiction. Je ne sais pas si vous l'éprouvez comme tel, Sébastien Bost. D'un côté, Barbara se défend d'avoir été traumatisée par la guerre. Elle l'a considéré avec ses yeux d'enfant. Nous vivions comme hors la loi et j'aimais cela quand j'y pense. Et dans le même temps, elle précise que les souvenirs de l'enfance sont les pires. Ceux de l'enfance nous déchirent.
Oui, la contradiction n'est qu'apparente parce que chez Barbara, les souvenirs d'enfance sont les pires et nous déchirent parce que s'ils sont heureux, ils nous obligent à vivre perpétuellement dans une forme de nostalgie. Et s'ils sont traumatisants, ils nous empêchent de construire notre vie. Donc de toute façon, que les souvenirs d'enfance soient heureux ou malheureux, ils nous entravent quelque part.
C'est la période aussi de ce qu'il faut évoquer moins brièvement, c'est le temps de l'inceste. Son père la violente.
Oui, on sait que ça a commencé en 1942 jusqu'au moins... En 1946, on a appris ce drame terrible
très tard,
après la mort de Barbara, dans des mémoires qui ont été publiées à l'état fragmentaire, parce qu'elle était en train de les rédiger au moment de sa mort. Donc ce sont dans ces mémoires posthumes qu'elle révèle ce drame de l'enfance. Ce qui est intéressant lorsqu'on relit le passage dans lequel elle évoque cette tragédie, c'est qu'elle s'arrête tout de suite au moment où elle s'apprête à la raconter.
Un soir, à Tarbes,
oui.
Mon univers bascule dans l'horreur. J'ai 10 ans et demi, les enfants se taisent parce qu'on refuse de les croire, parce qu'on les soupçonne d'affabuler, parce qu'ils ont honte et qu'ils se sentent coupables, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils croient qu'ils sont seuls au monde avec leurs terribles secrets. De ces humiliations infligées à l'enfance, de ces hautes turbulences, j'ai toujours ressurgi.
Ce qui est particulièrement émouvant dans ce passage, c'est qu'il y a la révélation d'un drame terrible, mais que tout de suite, elle parle des enfants de manière générale, et on comprend que ce qui la motive en premier pour lever le voile sur un drame aussi personnel, c'est parce qu'elle veut aussi, en tant qu'artiste, s'exprimer au nom d'enfants qui connaissent la même détresse qu'elle et qui n'ont pas la possibilité, parce qu'ils n'ont pas les mots ou qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir une parole publique, de s'exprimer. Donc si elle lève le voile sur cette partie de son enfance, ne serait-ce que tardivement, c'est aussi parce qu'elle veut en faire un fait de société.
Mais on ne peut pas ne pas se dire que, compte tenu des révélations récentes de toute nature sur ces drames beaucoup plus nombreux qu'on ne pouvait le penser, ce témoignage prend une couleur spécifique.
Vraiment. Et là, on voit la Barbara lanceuse d'alerte qui veut absolument parler au nom d'une majorité silencieuse qui ne peut pas, soit parce qu'elle n'en a pas la possibilité, soit parce qu'elle n'en a pas la force ni la capacité de le faire. Donc elle veut parler au nom de ces victimes-là.
Elle a fait 3 chansons qui semblent concerner ce thème. Nantes 1964, Au cœur de la nuit 1967, et puis L'aigle noir, qui est peut-être une de ses chansons les plus profondes, les plus sombres, et qui remonte à 1970.
Disons qu'il y a eu une tentation tout à fait légitime de relire une certaine partie de son répertoire à la lumière de cette révélation sur l'inceste. Et c'est vrai que de son vivant même, alors que nous n'en avions pas connaissance, Marie Schex, son assistante, qui était son assistante à la fin des années 60, avait dans un livre opéré un rapprochement entre effectivement 3 chansons. La chanson Nantes, où elle évoque la mort de son père. La chanson L'aigle noir et la chanson Au cœur de la nuit, où elle évoque un rêve et une voix surgit d'outre-tombe qui vient la tourmenter, parce que les 3 chansons contiennent des vers identiques ou des formules identiques qui reviennent. Et donc, Marie Schex avait déjà émis l'hypothèse que ces 3 chansons essayaient de réparer une image paternelle pour le moins problématique.
Évoquons maintenant, si vous le voulez bien, Sébastien Bost, les premières années, toujours une errance, les premières années de sa carrière de chanteuse. Il a fallu du temps pour qu'elle fût révélée au grand public.
C'est la deuxième errance de Barbara, c'est-à-dire qu'après avoir été une enfant de la guerre, elle est une jeune femme, une jeune artiste en herbe, qui n'a pas de relais, qui est jetée sur les routes. Elle quitte Paris brutalement dès 1950, après le départ de son père.
Entre France et Belgique.
Oui, parce qu'elle espère rejoindre un cousin en Belgique qui a des entrées dans les cabarets, bon, finalement, qui ne l'aidera absolument pas. Elle se retrouve à Bruxelles, mendier dans les rues, il faut bien le dire. Elle vit dans une extrême précarité. Elle a la chance de rencontrer une jeune femme qui s'appelle Peggy et qui la présente à une bande de copains qui sont à la fois étudiants, artistes et qui tiennent un petit cabaret comme ça. Donc c'est sa première famille d'artistes et elle va chanter pendant plusieurs années dans des beuglants en fait belges, où elle va d'ailleurs se faire siffler, moquer.
Elle apprend le piano sans avoir vraiment de formation musicale, cela est très frappant.
Oui, ce sont des amis qu'elle rencontre, notamment une pianiste géorgienne qu'elle va rencontrer en Belgique, qui s'appelle Eteri Rouchadze, qui va l'initier un peu au piano. C'est vrai que Barbara d'abord a eu une scolarité très chaotique et elle n'est pas du tout passée par les formations académiques, donc elle connaît la musique, mais elle n'a pas eu de formation en solfège ou en harmonie musicale, etc.
Ni en culture littéraire, et pourtant son œuvre est puissamment inspirée par toutes sortes d'auteurs, notamment romantiques.
Le répertoire de Barbara est très imprégné de l'univers de Baudelaire, de Musset, et surtout de Verlaine et de Rimbaud. Elle retrouvait dans le parcours de Verlaine et Rimbaud un peu de sa propre identité, puisqu'ils avaient également erré sur les routes, ils s'étaient réfugiés en Belgique, eux aussi. Donc elle retrouvait cet esprit. Oui, Barbara est une parfaite autodidacte, mais bien sûr qu'elle a une très très grande culture littéraire et artistique qu'elle s'est forgée elle-même, et évidemment, oui, très marquée par la poésie du 19e siècle, en effet.
Il était un fou du roi qui vivait l'âme sereine en des châteaux d'autrefois pour l'amour d'une reine.
Et France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Alors après ces malaventures, ces turbulences, c'est un mot qu'elle aimait bien, turbulence, elle va trouver le succès en passant par le lieu très important du cabaret, de l'Écluse. Les années 50 sont le temps du cabaret.
Oui, l'Écluse, c'est la fin des années 50, parce qu'elle avait d'abord passé 2 auditions, je crois, dès 52, puis ensuite en 54, où le cabaret, à ce moment-là, l'a refusé, mais elle a persévéré. Et finalement, elle a appris son métier à l'épreuve d'un public pas toujours facile. Et puis, elle s'est frottée à des expériences diverses et variées en Belgique. Et elle a fini par être engagée à l'Écluse, donc ce fameux cabaret du quai des Grands Augustins, tout près de la place Saint-Michel.
C'est dans ce décor qu'émergent à l'époque Moustaki, Aznavour, Gainsbourg, Montand et Ferrat. La plupart d'ailleurs sont d'origine étrangère. Ce n'est pas intérêt à signaler aujourd'hui dans l'ambiance qui est la nôtre.
Absolument. Et ils justement, ça joue aussi sur leur rapprochement, sur leur esprit de camaraderie, leur esprit à la fois bohème et potache, mais aussi cette identité artistique, cette fibre artistique qui les unit, qui les soude profondément. Et c'est vrai que là, Barbara va trouver son premier public de fidèles au sein de l'Écluse. Elle va surtout être remarquée par Pierre Yégel, qui est directeur artistique de Pathé Marconi, qui va lui faire enregistrer son premier disque qui s'appelle « La chanteuse de minuit ». Alors, il faut préciser qu'à cette époque, elle ne chante pas encore ses propres textes. Elle reprend le répertoire de la Belle Époque, 1900, et elle chante les chansons de Brel et de Brassens.
Pour la Belle Époque, c'est Fraxon, je pense, cette chanson qui est vraiment pleine d'humour, qui s'appelle « Les Amis de Monsieur ».
Voilà, elle chantait des chansons très drôles, « Les Amis de Monsieur ». Elle chantait Mayol aussi, elle vendait les petits gâteaux. Elle chantait Brassens et Brel également. Et là,
qu'est-ce qu'elle a chanté de Brassens?
Elle a fait tout un disque sur Brassens. Elle chantait Pénélope, la femme d'Hector, la petite fille et le Père Noël. Elle chantait Pauvre Martin, etc. Et de Brel,
Pauvre Misère.
Et oui, bien sûr. Et là, elle a été remarquée par donc Pierre Yégel de chez Pathé Marconi, qui lui a fait enregistrer l'un de ses premiers disques, La chanteuse de minuit. Et puis ensuite, c'est Gilbert Sommier, le directeur des Capucines, qui l'a remarqué et qui lui a proposé de venir chanter lors des soirées et chansons qu'il organisait au théâtre des Capucines les mardis soirs, les soirs de relâche, pour lancer un peu les artistes en herbe. Et là, on est cette fois en novembre 63, on est 5 ans plus tard. Et c'est en novembre 63 qu'elle va créer donc la chanson Nantes, qui va impressionner tout le monde. Et dans la salle, ce soir-là, il y a Denise Glaser, la célèbre productrice d'émissions de télévision, qui tient la grande émission dominicale
Discorama,
qui va tout de suite programmer, qui va tout de suite inviter Barbara dans son émission et qui va vraiment la lancer. Donc vous voyez, il y a d'abord l'engagement au cabaret de l'Écluse, le disque avec Pierre Yégel. Elle est remarquée par Gilbert Sommier, puis par Denise Glaser, et ensuite c'est Claude Dejac, le directeur artistique de chez Philips, qui lui fait enregistrer Nantes, et là, voilà, c'est le début.
Et à quel moment, Sébastien Bost, situeriez-vous le moment où elle se sent, vraiment, elle est entraînée à parler des choses de la cité ?
Elle ne va pas le présenter comme ça, mais elle va dire, en tout cas, il y a un moment très net où j'ai eu envie de chanter mes propres chansons, et de parler en mon nom, notamment parce que je suis une femme et que j'avais envie de dire des choses en tant que femme. Donc elle ne met pas forcément sa conscience citoyenne en avant, mais elle met en avant le fait qu'elle est une femme et qu'en tant que femme, au début des années 60, elle a des choses à dire, qui sont peut-être, et un regard sur le monde, différent de celui qui est porté par les hommes.
Vous la diriez féministe ?
Alors, elle ne se désignait pas comme ça, mais c'est vrai qu'elle genre quand même beaucoup son passage à l'écriture et le passage de ce qui était simplement un répertoire chez elle, de chansons des autres, à ce qui va devenir une œuvre, et une œuvre personnelle, où elle s'exprime en son nom.
Alors, on la repère à plusieurs reprises comme intervenant, tout en s'en défendant dans les choses de la politique.
Je crois surtout que si elle s'en défend, c'est par modestie, parce qu'elle ne se sent pas non plus investie d'une parole sacrée, et qu'elle n'a pas non plus le mandat pour le faire. Ce n'est pas une femme politique, et c'est au sens élu, passant par des...
Voilà, bien sûr, mais ça,
bien sûr. Bien. Et je crois que c'était sa modestie qui l'a poussée à ne pas vouloir se présenter comme une chanteuse engagée.
Évidemment, pour intervenir, il y a le truchement du journal. Et elle est, de façon intéressante, très réticente toujours à l'égard des interviews, même si elle y consent. Nous en donnons et nous en donnerons quelques démonstrations. À Maurice Béjart, qui lui demande en 1966 « Ça t'a embêté, le succès ?» Elle a cette réponse, une confidence qui est vraiment saisissante. « À la fois, ça m'a émerveillé, à la fois, ça m'a beaucoup dérangé, parce que c'était comme un viol. » Au départ, j'étais très malheureuse de ça, je ne comprenais pas. J'avais l'impression tout à coup que ma vie était déchirée et jetée. Enfin, Enfin, c'était comme un ventre ouvert. Parce qu'il faut bien répondre des choses aux journalistes. On dit des choses et puis ils les entendent d'une autre façon, ils les écrivent encore d'une autre manière. Alors ça, c'est affreux. Nous avons écouté plusieurs interviews d'elle, évidemment, et on est toujours frappé du fait que la plupart des journalistes essayent de l'entraîner vers des considérations sur sa façon de chanter, sur son art, etc., et que ça la gêne et qu'elle s'en défend.
Oui, parce qu'elle était très agacée par le fait que on voulait donner l'image, une image d'elle de chanteuse intellectuelle rive gauche, sombre et déprimée, qui ressasse son mal de vivre à longueur de rengaine mélancolique. Et elle ne se reconnaissait absolument pas dans ce portrait. De même, elle se méfiait beaucoup de tout ce qui est médiation, parce qu'elle a construit toute sa carrière et son œuvre sur un rapport direct sur scène avec le public. Et lorsqu'elle lisait des comptes rendus d'interview ou ce qu'on disait d'elle dans les journaux, elle ne reconnaissait pas les paroles qu'elle avait prononcées. Elle ne se reconnaissait pas. Il y avait un travail de filtre ou un travail de réinterprétation qui la gênait beaucoup. Donc, mais elle savait aussi faire la part des choses et avoir une très grande gentillesse et un très grand respect à l'égard des journalistes et aussi une démarche de séduction avec eux, c'est-à-dire je joue aussi à ce que je peux vous dire et ce que je ne vous dirai jamais. C'était aussi bon, tout le charme de l'artiste qui veut bien dévoiler certaines choses et qui sait très bien qu'elle n'ira pas au-delà d'un certain
une
stade.
Une des premières causes, en tout cas, qui l'a saisie, qui l'arrache à cette pudeur qu'elle manifeste souvent à l'égard des choses de la cité, c'est l'affaire de Gabriel Russier. Je voudrais que vous nous en disiez un mot. On est en 1969.
Oui, donc c'est un fait divers. Enfin, c'est une affaire qui a dépassé le simple fait divers hein, et qui a presque déchiré la société française à la fin des années 60, puisque c'est l'histoire donc de cette professeure de lettres d'un lycée des quartiers nord de Marseille qui était tombée amoureuse de l'un de ses jeunes élèves lycéens et qui avait entretenu avec lui une passion réciproque, mais bien sûr coupable. Et Gabriel Russier...
Coupable dans la législation de l'époque.
Absolument, hein, puisque... Et c'est vrai que Gabriel Russier a été, bien sûr, jugé, condamné...
Elle s'est tuée.
Voilà, et elle s'est suicidée quelques semaines avant son procès en appel. Et c'est vrai que cette figure très marquante a été vraiment presque un symbole. C'était, bon, si vous voulez, c'était un peu le discours de l'amour contre le discours... Bon, c'était d'abord une grande affaire de morale, et c'était le discours du cœur contre la raison.
D'ailleurs, Pompidou s'est exprimé à ce propos. Oui. En citant Éluard dans une fameuse conférence
dans une
de presse.
Fameuse conférence
Moi, mon
de
remords
presse,
se fut, et
voilà.
etc.
Et alors, cette affaire, non seulement a ému le grand public et a donné lieu, chez les artistes, donc, à de nombreuses évocations. Il y a eu notamment ce fameux film d'André Cayatte qui s'appelle Mourir d'aimer avec
Annie Girardot.
Bouleversant dans le rôle, la chanson d'Aznavour, hein, mais aussi une chanson d'Anne Sylvestre pour Gabriel, etc.
Et Barbara, alors
elle, c'est plus discret, mais c'est vrai qu'elle écrit une chanson qui s'appelle Amours incestueuses, qui est le titre, c'est un titre métaphorique hein, qui évoque.
Il ne s'agit pas là d'elle-même du tout.
Non, absolument pas. Elle évoque dans cette chanson une histoire d'amour rendue impossible par l'écart d'âge qui sépare une femme mûre de 40 à 50 ans du jeune homme dont elle est éprise et qui a 20 ans. Et cette chanson semble directement inspirée de l'affaire Gabriel Russier. Il est évident que, de toute façon, Barbara n'a pas pu y être insensible.
On la retrouve engagée, même si elle refuse l'adjectif, à l'occasion de l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République, dans des circonstances qui méritent d'être évoquées. Sébastien Bost.
Lors de la campagne présidentielle de 1981, elle ne l'a pas soutenue publiquement ou directement, mais c'est vrai qu'elle avait affiché ses sympathies clairement, bien évidemment, et surtout elle a été emportée par le projet de société que proposait François Mitterrand avec ce fameux slogan « Changer la vie » qui d'ailleurs était inspiré d'une formule de Rimbaud qui était donc une référence littéraire parmi d'autres chez Barbara. Et c'est vrai que changer la vie, créer cette utopie d'une communauté fraternelle qui répare les blessures de l'histoire dans un grand projet collectif tourné vers l'avenir ne pouvait que la séduire.
D'où cette chanson, Regarde, qui suit de peu l'accession de François Mitterrand à la présidence de la République en mai 1981 et dont nous allons écouter quelques strophes.
Regarde, quelque chose a changé, l'air semble plus léger, c'est indéfinissable. Regarde, sous ce ciel déchiré, tout s'est ensoleillé, c'est indéfinissable. Un homme, une rose à la main, a ouvert le chemin vers un autre demain. Les enfants, soleil au fond des yeux, le suivent de par deux, le cœur en amoureux. Regarde ces fanfares et musique, teinte amare et magique, féerie, féerique. Regarde, moins chagrin, moins voûté, tous ils semblent danser, leur vie recommencer.
François Mitterrand n'a plus qu'être sensible à ce soutien. Il est venu assister d'ailleurs au concert. C'est un enregistrement en live. Cette chanson n'a pas été enregistrée en studio. Mais c'est un hommage évidemment puissant. Un homme, une rose à la main, a ouvert le chemin vers un autre demain. Les enfants, soleil au fond des yeux, le suivent deux par deux, le cœur en amoureux.
Oui, la chanson a été créée en public à Pantin lors du tour de chant de Barbara quelques mois après l'élection présidentielle. Ce qui est intéressant dans cette chanson, c'est que elle rend hommage à la grande marche du Panthéon le 10 mai 1981, où effectivement le président Mitterrand, escorté de toute une foule en liesse, a marché vers le Panthéon.
Avec les trois roses à la main, Schœlcher, Jean Jaurès et Jean Moulin.
Et ce qui a beaucoup ému Barbara, c'est de voir tous ces jeunes, toute cette communauté jeune qui était autour de ce président. Et en fait, c'est ça qu'elle célèbre, parce que lorsqu'elle dit les enfants, soleil au fond des yeux, le suivent de par deux, et tout de suite elle dit écoute, ces fanfares et musique, tintamarre et magique, ils semblent danser leur vie recommencée. Et on a l'impression aussi qu'elle parle de ce qui se passait dans ses propres concerts. Ce qui l'a vraiment émue dans le geste de François Mitterrand, c'est qu'elle retrouvait dans l'utopie politique qu'il proposait et dans la ferveur qu'il dégageait autour de lui ce qu'elle essayait de créer elle-même dans ses propres concerts, c'est-à-dire un espace utopique où tous les gens sont là rassemblés pour écouter des chansons et réparent leur vie ou réparent les déchirures de l'histoire à travers des chansons. Et c'est vrai que lorsqu'elle parle de François Mitterrand, un homme, une rose à la main, on peut toujours imaginer en surimpression Barbara également une rose à la main en train de chanter sur scène. Il y a presque les deux images qui se surimpriment, un écho.
Son premier album, ou un de ses premiers albums, où elle n'avait pas voulu mettre son visage, comporte des roses déjà.
Voilà.
Et voici la manière dont, 15 ans plus tard, peu de temps avant sa mort, elle a disparu en 97, en décembre 96, comment elle regarde dans une émission de Pierre Bouteiller et Sophie Leloirne, comment elle considère sa prise de position de 1981 en chanson.
Sur le plan politique, vous avez dédié une chanson à François Mitterrand.
Oui, mais mon choix est fait. Enfin, c'est vrai que je suis socialiste. Ben bon, mais c'est vrai que j'aimais beaucoup cet homme-là. C'est sûr que j'ai pour cet homme-là une grande admiration et surtout une immense tendresse. Quand il est parti, j'ai eu comme beaucoup d'entre nous, enfin d'entre vous, beaucoup de peine, et que j'ai eu aussi à un moment donné beaucoup de peine sur le chemin que prenait le socialisme aussi. Mais je veux pas parler de ça.
Mais c'était plus un sentiment personnel qu'une réflexion politique alors.
Oui. Et les deux souvent.
Mais vous admettez que ça peut marcher dans l'autre sens aussi, qu'un chanteur ou une chanteuse peut être de droite.
Ça pas. Oui, la tolérance et le bien sûr me fait dire que bien sûr et oui peut être de droite. Ben oui, ben enfin écoutez, oui bien sûr il peut pas être d'extrême droite. Ça c'est clair pour moi. Il peut pas être d'extrême droite.
Ça c'est clair pour elle. Et à partir de ce moment ce tournant de 1981, de plus en plus souvent, les chansons de Barbara portent de plus en plus souvent le signe d'un engagement. Je voudrais que vous citiez plusieurs exemples à cet égard. Je pense à Malik Houssekine, par exemple, ou aux engagements en faveur des prisonniers, et puis le sida.
Oui, c'est vrai que l'affaire Malik Houssekine, en 1986, a inspiré à Barbara la fameuse chanson « Les enfants de novembre », où elle célèbre les élans de la jeunesse pour davantage de tolérance, de pacifisme.
C'est une garçon qui a été tué par des brigades mobiles.
En marge des manifestations.
Contre la loi de Vaquet.
Voilà, sur la réforme des universités. Il y a également, bien sûr, la chanson « Si d'amour » en 1987, qui traduit son engagement pour le sida auprès des malades de l'hôpital Bichat et de l'hôpital Cochin, puisqu'elle se rendait dans les services des soins palliatifs pour accompagner les malades. Et elle se rendait, notamment, elle a écrit cette fameuse chanson qui s'appelle « Le couloir ». Et puis, il y a la chanson au début des années 90 qui s'appelle « Rêveuse de parloir », qui est dédiée aux femmes détenues des prisons des Baumettes, de Fleury-Mérogis, de Montluc, d'Amiens. Et à chaque fois, c'est la même chose, c'est-à-dire elle se rend aux côtés de personnes opprimées qui n'ont pas la, qui n'ont pas droit à la parole et qui ont perdu une forme de dignité sociale. Par exemple, son engagement pour le sida, il est directement lié au fait que dans les années 80, il y avait ce discours qui consistait à considérer que les malades du sida étaient punis pour leur toxicomanie ou leur déviance sexuelle supposée. Et elle ne pouvait pas supporter d'entendre un tel discours.
Écoutons-la en parler. C'est un extrait de l'émission de François Delétraz, Jeux de Louis en novembre 93.
Quand c'est arrivé, pour la première fois que j'ai entendu parler, il m'a semblé que ça allait être une chose effrayante. Et que, puisque je parlais tellement d'amour, et qu'arrivait cette chose dans l'amour et par l'amour, que peut-être je pouvais en parler. Et j'ai cru que je pourrais en parler aux gosses, etc. Donc j'ai écrit la chanson. Et je l'ai chantée, et puis après, souvent on m'a dit oui, c'est parce que vous êtes tenté par la mort, ce que nous racontait le sida, etc. Mais moi, j'avais cette certitude que déjà, c'était une chose très grave. Alors que quand j'en parlais, on me disait, mais non, et puis il ne faut pas en parler, et ceci. Donc, j'ai commencé ce combat, et j'ai bougé autour de ça, j'en ai parlé aux gosses, parce que ça concernait tout le monde, et il y avait une espèce de discrimination qui faisait qu'on disait, et maintenant on s'aperçoit que les femmes sont touchées, c'est hallucinant, j'ai entendu le jour à radio, ah ben oui les femmes aussi, mais comment les femmes aussi, mais on le savait comment les femmes aussi, et les enfants sont touchés, et on n'en parlait toujours pas, toujours cette manière de se dissimuler, de se cacher derrière son petit doigt, et le mal avançait. Et aujourd'hui encore, si vous voulez, je continue de dire, tant pis si on en rit, qu'il y a une non-information. Bien sûr, on sait que la HIV existe. Bien sûr, on sait que le sida existe. Mais on ne sait toujours pas, on en est toujours à savoir si ça s'attrape par une brosse à dents. Moi, je connais des gens encore qui posent ces questions. Donc, s'ils les posent, c'est qu'ils ont besoin qu'on leur explique. De même qu'il y a eu à un moment donné, au départ de cette maladie, où les familles, où on ne suivait pas. Moi, j'ai vu partir tellement de malades seuls. Où les familles même ne venaient pas parce qu'elles ne savaient pas. Peut-être qu'elles avaient peur d'attraper, peut-être parce qu'elles pensaient que c'était une... Quand j'ai commencé à entendre que c'était une punition de Dieu, alors si on ne bouge pas à ça, ce que vous voulez, c'est terrible. Une punition de Dieu. On l'a entendu, celle-là.
Sont mourus d'amour, sida, sida né. Elle est année d'amour, à mourir d'aimer. Ils sont morts d'amour, d'amour sidané. Oh sida, 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 danger, sida. Oh sida, sida, amour à mort.
Cette notion de solitude, sida, toujours, Sébastien Bost.
Oui, chez les malades du sida et ceux qui meurent à l'époque. Alors, ce qui est émouvant, c'est qu'on voit que Barbara lie sa conscience humaniste avec son histoire personnelle, puisque si elle se rendait auprès des malades et qu'elle leur tenait la main au moment de mourir, c'est parce que elle n'avait pas pu le faire pour son propre père, auprès duquel elle n'a pas pu se rendre à l'heure de sa dernière heure, comme elle le dit dans la chanson Nantes.
Rue de la Grange-aux-Loups,
absolument. Et c'est ça, c'est elle. Elle mêle son histoire avec la grande histoire, d'une certaine façon, c'est ça qui est très beau. Et dans les prisons, elle se rendait dans les prisons pour faire de la prévention contre le sida, hein, parce qu'elle savait que la maladie pouvait s'y propager, et elle chantait.
Dans toutes les prisons, au Beaumet, à Montluc, oui. À Fresnes, à Fleury-Mérogis.
Elle a même écrit une chanson dédiée aux détenus, hein, qui s'appelle « Rêveuse de parloir », où elle cite longuement le prénom des détenus qu'elle a rencontrés, parce que ce qui fait le fil conducteur, finalement, des chansons de Barbara, c'est de redonner à ceux qui l'ont perdu ou qui en ont été privés leur dignité. Avec une chanson de Barbara, on relève la tête, les opprimés retrouvent leur dignité.
Il nous reste quelques minutes, Sébastien Bost, dans le cours de cette émission consacrée à Barbara comme citoyenne, Barbara dans la cité, pour évoquer peut-être le moment qui demeure le plus historique, le plus important de toute son œuvre, je veux dire la chanson Göttingen. Et je voudrais que nous restituions à la fois les circonstances dans lesquelles elle a surgi et les conséquences en relations internationales, dans les sensibilités collectives, du point de vue de la réconciliation franco-allemande que ce texte a pu avoir.
Oui, l'histoire de cette chanson est vraiment extraordinaire. On est fin 1963, Barbara chante à l'Écluse. C'est une étudiante allemande de la ville de Göttingen qui est étudiante à la Sorbonne et qui la découvre. Et lorsqu'elle retourne dans sa ville, elle en parle au jeune directeur du Junges Theater de la ville. Enfin, c'est le directeur de la programmation. Il lui dit, j'ai rencontré une artiste géniale qui chante sur les quais de Seine à Paris. Il faut la faire venir pour qu'elle chante dans notre théâtre. C'était un théâtre d'étudiants un peu d'avant-garde.
Voilà, une forte réticence à l'égard de l'Allemagne pour des raisons biographiques et à cause de l'oppression de la guerre.
Alors, Hans Gunther Klein, hein, ce fameux directeur de la programmation du théâtre, vient la voir à l'Écluse, donc, essaie de la convaincre par tous les moyens de la faire venir. Elle ne veut pas parce que les blessures sont encore très vives, hein, bien sûr, moins de 20 ans après la fin de la guerre. Mais elle réfléchit et elle se dit « Attention, je ne peux pas refuser une main tendue. C'est la jeunesse de Göttingen qui me tend la main et c'est elle qui me montre l'exemple pour réparer justement des blessures qui sont encore vives. Je ne peux pas passer à côté de cette main tendue. » Et elle s'y rend et c'est vrai qu'elle reçoit un accueil absolument bouleversant parce qu'en plus, bon, d'abord elle retrouve dans ce théâtre, et elle en est enchantée, l'ambiance des cabarets de Saint-Germain-des-Prés, parce que c'est un théâtre étudiant avec une ambiance finalement très proche de celle qu'elle connaît à l'Écluse. Et puis bon, il y a cette fameuse soirée où elle arrive, où elle ne peut pas jouer parce qu'il n'y a qu'un piano droit, et finalement elle exige un piano à queue et on va chercher le piano. Donc du coup, on va le chercher en quatrième vitesse et en catastrophe. Les étudiants démontent le piano, le remontent en scène, le concert commence avec 2 heures de retard, sans répétition, sans rien. Et elle est très surprise, alors qu'elle-même ne parle pas allemand et qu'en France, elle n'est pas encore très connue, de voir que la centaine d'étudiants qui lui fait fête est capable de fredonner les airs de ses chansons. Elle en est médusée. Et c'est vrai qu'elle devait rester un ou deux soirs, et elle va rester la semaine, et elle est tellement émue profondément par cet accueil chaleureux que le dernier soir, elle va écrire dans le petit jardin du théâtre ce texte avec une mélodie qui lui vient tout de suite en tête et qui s'appelle Göttingen, qu'elle va chanter le soir même alors qu'elle n'est pas terminée, bien sûr, avec cette promesse faite aux enfants de Göttingen. Les enfants blonds de Göttingen, je reviendrai la chanter.
Eh bien, c'est la seule de ces chansons que je vais vous donner à entendre intégralement. Évidemment, elle le mérite.
Bien sûr, ce n'est pas l'Ocelle, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, à Göttingen. Pas de quai et pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même, à Göttingen. Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen, et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois, commence, Göttingen, bien sûr, nous avons la scène. Puis notre poids de scène, mais Dieu.
yeux que les roses sont belles. À Göttingen, à Göttingen, nous, nous avons nos matins blêmes et l'âme grise de Verlaine. Eux, c'est la mélancolie même. À Göttingen, à Göttingen, quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais ne reviennent le temps du sang et de la haine. Car il y a des gens que j'aime à Göttingen, à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. La, 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 la. À Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen.
Voilà bien Sébastien Bost, une chanson Göttingen qui a eu une postérité tout à fait digne d'être rappelée. Elle a été considérable.
Oui, le soir même, d'ailleurs, Barbara avait fait ce serment au public de revenir la chanter à Göttingen en allemand pour manifester davantage encore, s'il est possible, cet amour qu'elle avait envie d'exprimer pour cette ville.
Et voilà tout à coup ce chant qui devient un chant de réconciliation franco-allemand.
Absolument. Il faut dire que la chanson date de 1964, on est un an après le traité de l'Élysée. Hein.
Il y a juste 60 ans.
Absolument. Et bien sûr, elle a tout de suite été ressentie comme un hymne de réconciliation, ce qu'elle est. Hein. Il faut dire quand même, elle dit dans la chanson, il y a des gens que j'aime à Göttingen, les enfants ce sont les mêmes à Paris, à Göttingen. Et mon cœur verserait une larme pour Göttingen s'il fallait reprendre la guerre. Donc c'est vraiment une chanson de tolérance, d'humanité, de main tendue, de réconciliation, de fraternité. Et elle a été pressentie un temps pour devenir l'hymne européen. Elle faisait partie des chansons ou des musiques possibles pour devenir l'hymne européen.
Et au moment du grand débat de la Sorbonne, où François Mitterrand, notamment en face de Philippe Séguin...
Oui, en 92, hein, à l'occasion du référendum sur le traité de Maastricht, le président Mitterrand exige que la chanson soit diffusée en générique de fin de l'émission. Et depuis, elle est inscrite officiellement dans les programmes scolaires allemands, et elle fait l'objet vraiment de répétitions. Elle est célébrée chaque année, commémorée.
Au moment du 40e anniversaire du traité de l'Élysée, traité donc de réconciliation de Gaulle-Adenauer en janvier 2003, au château de Versailles, en direct, on entend Gerhard Schröder, chancelier allemand, évoquer Barbara, évoquer Göttingen et rappeler que lui-même avait été étudiant à Göttingen.
Oui, il avait été étudiant à Göttingen, donc évidemment la chanson résonnait bien sûr pour lui de façon particulière. Et évidemment, 40 ans après la chanson et le traité de l'Élysée, son actualité n'avait pas perdu une ride, et on pourrait dire que 60 ans après, aujourd'hui, en 2024, il est plus que nécessaire de la chanter et de la faire connaître.
Oui, Göttingen nourrit la postérité de Barbara au centre, mais il est beaucoup d'autres signes de cette vitalité que les anniversaires scandent. Mais pas seulement les anniversaires, Sébastien Bost.
Oui, c'est vrai que Barbara reste d'une actualité brûlante parce qu'elle prépare Elle propose une œuvre vraiment cohérente, très émouvante, avec des messages très forts. Chacun s'y retrouve. Nous puisons dans les chansons de Barbara des éléments pour construire notre propre vie, essayer d'avoir une idée de notre propre destin. Et c'est vrai que ces mots résonnent très très fort en nous encore aujourd'hui.
On a donné son nom à des lieux dits, à des jardins, naturellement des jardins.
Oui, des rues, etc.
Et même un collège.
Oui, récemment.
Astin.
Et surtout, on la chante beaucoup, on la reprend, car c'est une œuvre vivante. Il ne faut pas simplement patrimonialiser Barbara, il faut surtout la saisir dans ce qu'elle a de profondément vivant encore aujourd'hui. Donc il faut la chanter.
Eh bien voilà, un mot de la fin qui est parfait. Merci beaucoup Sébastien Bost. Votre livre important, Sébastien Bost, où vous analysez d'autre part l'art de la scène chez Barbara, nous n'avons pas pu y insister beaucoup. Votre livre s'intitule « Barbara, la morsure et la caresse », publié aux éditions La Cimard en 2023. Marie Chex a publié un beau livre qui s'intitule « Barbara », de souvenirs littéraires et fidèles, aux éditions Calman-Lévy en 1986. Je signale aussi, pour un portrait plus intime, l'ouvrage de Jacques Tournier, « Barbara ou les parenthèses » chez Segers en 1968, et puis de Valérie Lehoux, une biographie très complète qui s'intitule « Barbara, portrait en clair-obscur » qu'elle a donné chez Fayard en 2007. Et puis hommage à l'association intitulée « Barbara Perlin-Pimpin » qui a rendu hommage à notre chanteuse de façon très inventive, imaginative et fidèle.
Oui, et qui a permis pendant plus de 20 ans de perpétuer son patrimoine artistique, ses partitions, ses costumes de scène, etc., qui sont aujourd'hui légués à des musées nationaux pour que la richesse de ce patrimoine artistique ne soit jamais perdue.
Vous pourrez, mes chères auditrices, mes chers auditeurs, trouver une bibliographie plus complète encore sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission.
Une petite cantate du bout des doigts, obsédante et maladroite, monte vers toi. Une petite cantate que nous jouions autrefois, seule je la joue maladroite, si mi la ré sol do fa. Cette petite cantate fa sol do fa n'était pas si maladroite quand c'était toi. Les notes couraient faciles, heureuses au bout de tes doigts. Moi j'étais là malhabile, si mi la ré sol do fa. Mais tu es parti fragile vers l'au-delà, et je reste malhabile face au dauphin. Je te revois souriante, assise à ce piano-là, disant bon, je joue, toi chante, chante, chante là pour moi. Si mille ré, si mille ré, si sol dauphin. Si mille ré, si mille ré, si sol dauphin. Mon ami, oh ma douce, oh ma si petite à moi. Mon Dieu, qu'elle est difficile cette cantate sans toi.
C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Inès Benslama, réalisée par Vincent Abouchard, avec Yvan Turc à la prise de son, Célian Guillemard à la discothèque, Véronique Jolivet et Sylvia Monduc pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel et Karine Aubertuig pour la documentation.
Les anges avec leurs trompettes de la jour en jour pour toi. Cette petite cantate que nous jouions autrefois. Les anges avec leurs trompettes de la jour en jour pour toi. Cette petite cantate qui monte vers toi. Cette petite cantate qui monte vers toi. Si mille ré, si mille ré, si sol d'enfant.